Qu'est-ce qui se passe?
Mais c'est jamais plate. Disponible à tous les jours sur la page YouTube de Boulevard 102.1. Voici le Pit Stop.
David Chabot, salut.
Salut, salut.
Bienvenue dans le Pit Stop.
Hey, je suis un peu décontenancé, là.
Ben oui.
Je suis dans la grosse ligue, là.
Ben oui. Ben, on avait besoin d'un power forward pour remplacer Denis Gravel, puis t'étais mon premier choix.
Est-ce que c'est le
first
poids...
First pick overhaul.
C'est-tu le poids sur la balance qui a fait pencher ta décision pour power?
Oui.
Ouais, hein?
Oui, parce qu'une fois que t'es lancé, t'es difficile à arrêter.
Ah, c'est ça. C'est comme, comme le petit castor quand on était jeune.
C'est le plus petit, mais le plus fort.
C'est ça.
Exact. T'as-tu passé sur des nids de poule en t'en venant? Hey. On est là-dedans, les amis.
Ouais.
On est là-dedans, ça va être l'enfer.
Gel, dégel. T'as annoncé 4 degrés mercredi.
Ouais.
Samedi, il faisait 4. Les rues étaient glacées hier soir quand je suis revenu chez nous vers 9h. Donc, on va être là-dedans.
Pognez les chiffres de CA Québec là, sur un an, entre le 9 janvier et le 24 février. C'est des comparables qu'on a fait.
Vas-y donc.
On va y aller avec ce qui nous touche principalement. Là, à Québec... entre le 9 janvier et le 24 janvier, par rapport à l'an passé, on a une augmentation des nids de poules de 20 % Montréal, 48 %
C'est déjà le paradis du nid de poules.
Ouais. Ça affecte-tu, ça, quand, parce que tu as travaillé en politique municipale, David? Ça se rend-tu directement au cabinet du maire?
Ben oui, là, c'est tout le temps... cette période-là, tout le monde est un peu sénère, puis là, c'est envoyer les équipes sur sa route, puis on le sait, là, on se le fait toujours dire... Ils mettent de l'asphalte froide parce que les usines d'asphalte chaude sont fermées. Là, ouais. Ça a été dit un milliard de fois. Mais je trouve tout le temps que cette conversation-là, on n'a pas la bonne parce que là, on traite le symptôme. Là, mon Dieu, les rues sont toutes défoncées. Mais tu sais, l'été, là, quand tu passes une rue, puis c'est un chantier, puis ils sont en train de tout refaire la structure de l'asphalte. Là,
ouais.
Ben, en fait, la structure profonde de la rue là, avec les aqueducs et tout ça. Ah, là, j'ai un détour. Je suis obligé d'aller ailleurs puis tout. Mais c'est ça qui règle le problème pour vrai. Là.
Ouais.
Parce que là, mettre du patchage, on le sait tout le temps, ça marche pas. Il faut que tu refasses l'assiette de la rue complète, tu sais, dans la profondeur. Puis ça, c'est comme une espèce d'investissement qu'on veut pas faire.
Parce que ça, c'est ce que ça touche le vrai monde, tu sais. Puis
ben
je
oui.
comprends que... Puis il faut prendre la peine d'appeler la ville pour se plaindre. Tu sais, quand il y a un nid de poule épouvantable dans votre rue, tu sais, le réflexe qu'on a, puis garde, je lève ma main, là, je plaide coupable, c'est... Ah, regarde, il doit y avoir quelqu'un d'autre qui l'a dénoncé, ce nid de poule-là. Là.
Mm.
Mais appeler à la ville...
Ben, à Lévis, je vais parler au passé, un système de géo-référencement. Puis on pouvait taguer dans le fond le nid de poule. C'était super efficace pour ça. Mais ça reste que la journée A, tu passes dessus. Là, la journée B, il est réparé. Puis la journée C, tu reviens. Puis il est rouvert pareil.
Est-ce que vous teniez en considération les rues avec le plus de nid de poule pour les refaire dans votre plan d'infra?
En fait, il y avait deux aspects. Il y avait effectivement la surface, là, à quel point elle était maganée. Puis les infrastructures, évidemment, parce que là, quand t'es rendu avec des infrastructures de 50-60 ans, ben là, tu te dis, OK, là, c'est le temps de changer le tuyau en dessous, fait que tant qu'à faire, évidemment, tu refais le dessus. Fait que là, ça règle le problème pour le long terme, sauf que, tu sais, tu fais pas 28 000 rues par année, là, tu sais. Tu vas investir sur celles qui sont les plus critiques, il y a des codes d'usure, puis tout ça, là. Fait que là, ben, tu vas prioriser les rues maganées en infrastructure pour commencer, puis après ça, il y a du resurfaçage qui va se faire. Fait que là, on déroule l'asphalte sur une rue, puis on se dit, on se croise les doigts, puis ça va durer 3-4 ans. Puis après ça, on en revient avec des nids de poules, puis on est un peu en enfer en ce moment. Fait que là, tu sais, mais en même temps, c'est pas évident, parce que comment tu balances le confort quotidien en déroulant de l'asphalte versus entretenir des infrastructures profondes, tu sais. Puis là, évidemment, c'est un plus large débat à Lévis avec toutes les usines de traitement des eaux, puis tout ça, là. Mais, tu sais, on veut des parcs. On veut des infrastructures sportives, des arénas, c'est important, il faut que les kids puissent aller faire du sport, les terrains de baseball, des fois, ça fait dur. Fait que là, il faut investir là-dedans, là, t'as des centaines de millions à mettre dans tes usines de traitement des eaux, puis il reste l'asphalte au bout de ça, puis les élus essaient tout le temps de se garder un petit peu de jazzy là, pour essayer de se faire voir, puis de lancer des projets qui sont le fun à couper des rubans, tu sais. Mais balancer tout ça.
Et c'est un ancien directeur de cabinet qui vous le mentionne.
Oui.
Ben, c'est ça la vraie vie, là, la poutine, c'est ça pour vrai. Quand tu fais le budget à la fin, là, la première question, là, c'est pas qu'est-ce qu'on fait, c'est comment ça va coûter.
Ouais.
Puis là, dans l'année, t'as tout le temps des rumeurs. Là, le taux d'inflation, c'est 2 %. Fait que là, il faut choisir en dessous de l'inflation. Puis là, l'admin dit ouais, ben non, mais arrête, là, tu m'as demandé d'engager un nouveau service de je sais pas quoi. Puis là, ça va coûter des centaines de millions, ça avec.
Mais David, si boire. Moi, là, je suis un simple citoyen, j'envoie mes impôts au municipal. Ben, mes taxes. J'envoie mes impôts au provincial. J'envoie mes impôts au fédéral. Ma vie, là, avec ces impôts-là que je vous envoie, est supposée, là, je te dis à toi, là, mais est supposée s'améliorer. Quand je vois que par rapport à 2025, à Québec ou dans la capitale nationale, ça inclut Lévis, on a une augmentation des nids de poules puis des crevaisons qui sont générées de 20 % David, comparativement à l'année passée. Avec tout l'argent que j'ai envoyé au municipal, ça ne s'est pas amélioré. C'est anormal.
Ouais, au moins, stabilise. Tu commences par pas empirer la situation. Ça serait déjà un bon gain. Là, cet hiver, c'est particulier quand même. Il y a eu beaucoup de réchaud puis de refroidissement. Puis tout, c'est un hiver particulièrement difficile. Mais c'est tout le temps le même débat chaque année.
Mais c'est ça. Puis, tu sais, quand tu pognes les lignes en Beauce, il y a la Beauce, il y a la ligne, puis après ça, il y a comme un microclimat. Là, ça devient comme normal. Il n'y a plus de changement de température, puis l'asphalte est correct.
Ouais.
Comment on s'explique ça?
Bien, il y a tout le temps aussi le débat de est-ce qu'on veut payer plus de taxes pour avoir des chantiers de meilleure qualité? Parce que ton sous-traitant à plus bas soumissionnaire garanti, là, tu sais, bon, on connaît comment que ça marche, là, c'est le moins cher qui fait la job, là, ça finit que, oups, finalement, là, il y a des ajouts, puis bon, ça finit par en extra. Cette espèce de culture-là de payer le moins cher possible pour sauver le plus de taxes possible, puis là, je suis en train de vous dire qu'on paye pas assez de taxes, là, c'est pas ça mon point, ça fait en sorte que t'engages celui qui met le prix le plus bas sur la feuille, puis après ça, ben, t'es pogné avec, puis soit qu'il va te cheaper avec du mauvais matériau, puis tu sais, je suis pas ingénieur, là, on se comprend, mais... Il y a 128 variables différentes là, pour désigner une rue. Là. Juste le remplissage que tu vas mettre dedans, c'est quoi la qualité de matériaux que tu mets là-dedans, c'est quoi la profondeur d'asphalte que tu vas mettre, tout ça, c'est toutes des variables qui jouent sur le prix. Mais quand tu fais juste regarder le prix dans le bas de la feuille, puis tu dis bon, c'est relativement conforme, let's go, on le fait, ben là, tu vas voir ce que tu as payé pour. T'sais.
Est-ce qu'on est rendu trop idéologique dans la façon de gérer nos villes? T'sais, je regarde le maire Lehoulier. C'était développement, développement, développement. Là, on voit les conséquences. Je regarde le maire Marchand ici à Québec. T'sais, c'est l'idéologie de l'environnement, la mobilité active avec les pistes cyclables. T'sais, est-ce qu'on est rendu trop idéologique puis pas assez terrain sur le day-to-day qui, là, sont plates, là, mais les rues, les vidanges, la propreté des parcs. On est-tu rendu trop dans l'idéologie?
Je pense que oui. Je pense que oui. Souvent, les maires et mairesses, c'est leur plus bel job à vie. Là. Quand tu vas te faire élire et tu deviens le premier magistrat de la ville, ben, ça va être ta plus belle job que tu auras eu de tout ton temps. Là. Fait que là, tu veux ta photo dans le corridor de l'hôtel de ville puis tu veux avoir un leg à dire... Regarde, j'ai fait la bonne chose, puis je suis reconnu pour tel élément, tu sais, le centre de telle affaire, puis le service de transport de telle affaire. Fait que là, ça change le focus, parce que t'as 4 ans pour faire ce que t'as à faire. Puis oui, au municipal, souvent, tu fais plus que 4 ans si tu décides de continuer, mais t'as un court laps de temps pour laisser ta trace dans l'histoire.
Mm-hmm.
Fait que là, y a pas personne qui va s'en virer de bord la nuit en se disant « Ah, le maire Fortin, il était tellement bon, là, les rues étaient belles. » Ben non, ça va être de dire que Fortin, il a fait un stade, il a fait un terrain pas loin de chez nous, il a changé, je sais pas trop comment que ça se gère dans la ville pour autre chose, tu sais.
Mais c'est là qu'on a quand même le double discours, parce que t'es un maire comme le maire de Saint-Augustin, le maire Junot, là, c'est ça qu'il fait, là, il ramasse tes poubelles puis il gère tes rues.
C'est
puis
tout
il est réélu depuis 10 ans.
C'est tout ce qu'on leur demande.
C'est bien le seul au Québec, je pense, qui fait ça, là, dans une ville d'ampleur.
Ben vraiment, il a fait une montée là, sur ses médias sociaux en disant « Arrêtez-moi ça, il puce ses poubelles, vierge, à la job de la ville, je fais payer assez de taxes à mes citoyens, ouais. Commencerai pas à leur mettre une puce ses poubelles. » C'est le seul qu'on entend faire ça.
Ouais, j'adore ce brand-là, sérieusement. La ville n'a pas de dette. On garde les taxes à un niveau régulier. Parce qu'il aurait pu aussi dire, regarde, il n'y a plus de taxes, fait que garde, je lâche ça de 30% comme ils ont fait dans les rettes. Puis finalement, ben, tu te retrouves 3 ans plus tard, puis whoop, là, il manque d'argent, fait que là, tu repars dans les augmentations. Puis là, tu coupes dans les services parce qu'il faut que tu balances parce que là, le taux d'augmentation annuel, tu sais. Juno, de ce que je suis pas évidemment au fin de. Je lis pas le Saint-Augustin Digest.
Non, moi non plus, là.
Sauf que de ce que je comprends, le taux d'augmentation des taxes est assez dans la moyenne, puis tout le monde est bien content de ça, puis les services sont impeccables.
Ouais. Hey, autre question que je voulais te poser par rapport à l'administration des villes. Pendant les conseils municipaux, toi, tu as assisté à plusieurs conseils municipaux
trop,
avec la job, là. Ça devait te rendre fou, la période de questions, mais en même temps, c'est une période de questions qui est hyper importante parce que c'est de la politique directe. Tu jases avec tes citoyens. Il y a une question qui a été posée à l'Hôtel de Ville de Québec concernant à savoir s'il y avait des règlements sur l'impact des portes de commerce ouvertes l'hiver.
Ouais, j'ai vu l'article un matin dans le Soleil.
Et là, je me suis dit, attends un peu, parce que quand j'ai vu l'article dans le Soleil, Jeff, je me suis dit, mais attends un peu, là, c'est quoi? On a fait le tour des commerces dans le Vieux-Québec.
Ouais, en plein ça.
Puis là, on a commencé à recenser toutes les portes qui étaient ouvertes.
Ouais.
Puis
là, on a dit, c'est la seule place à Québec qui font ça.
Puis là, je me suis dit, c'est sûr que si le maire Marchand lit le Soleil, ce que je pense qu'il fait à chaque matin...
C'est clair.
C'est sûr que s'il voit ça, il va y aller avec un projet de loi.
Oui, mais là, il savait déjà. C'est ce qu'on apprend dans le journal, parce que Michel Massé, le président du comité de citoyens,
ouais.
il est allé au conseil de ville. Uh-huh. Puis il a dit, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Puis la réponse de Marie-Josée Asselin, qui est la responsable de l'environnement, dit, c'est un comportement inadéquat, mais c'est pas avancé sur rien.
Moi, je suis persuadé qu'il va y avoir du changement dans les
prochaines semaines. Ben oui, c'est clair, crime.
Ils vont interdire aux commerçants d'ouvrir la porte l'hiver.
On vient de parler d'idéologie du maire Marchand.
Hey, on a l'Alaska à sauver, là.
Hein? Exactement.
On a l'Antarctique à sauver.
Fait que c'est pas grave s'il y a des locaux vides du Saint-Jean, on a sauvé l'Antarctique.
On a le Groenland à sauver. Non, mais je lisais ça, puis je voulais te poser la question, c'est ma question, David. À quel point les questions des citoyens sont pertinentes pour l'administration municipale?
Beaucoup, oui. Puis souvent, on y va à la pièce parce que là, cette fois-là, OK, là, comment je te dirais ça? Il y a un article dans ça, fait qu'on réagit à l'article.
Ouais.
Si vous voulez avoir de l'impact au municipal, c'est de faire des articles. Allez voir un journaliste, puis de vous faire couvrir ça tout de suite, et la revue de presse, bang, t'existes. Quand tu vas juste au conseil municipal, puis tu poses une question, ça va des fois se régler. Parce que des fois, sincèrement, les conseils municipaux sont là pour la bonne raison, pareil. Puis ils vont prendre un dossier pareil, parce que des fois, il y a des irritants sur des histoires de permis de terrasse ou je sais pas quoi, puis ils règlent la situation. Fait qu'ils sont là pour ça.
Et avez-vous un système de plaideur qui roulait?
Oui. Oui, à un moment donné, c'est parce que ça finit que, tu sais, ton histoire de bouche d'égout qui claque, mettons, à Saint-Émile pour Québec, puis que tu reviens toutes les semaines là-dessus, là, regarde, c'est correct, on va le gérer. Okay. Oui, il y en a. Mais ça reste que c'est quand même rare. Puis il y a quand même une certaine écoute. Parce que je vais vous parler de ce que j'ai vécu, là. Il y a une certaine écoute quand même aux doléances de la population, on va dire ça comme ça. Mais souvent, quand il n'y a pas d'article, ça va partir dans le système de traitement des plaintes. Là, à Lévis, il y avait le 3-1 qui existait, là. Puis là, ben, ça va partir dans la machine. Puis là, ben, après ça, c'est difficile d'avoir un suivi. Puis c'est ça qui est difficile pour les citoyens, c'est est-ce que peux-tu savoir si c'est rendu mon histoire? Parce que, tu sais, des fois, là, c'est vraiment irritant. Genre, mettons, il y a une lumière de la ville qui a été installée, que c'est au LED, puis c'est directement dans ma chambre à coucher. J'invente une situation, puis ça t'empêche de dormir. Puis t'as beau avoir des rideaux, puis tout ça, la lumière, faut juste la réorienter. Mais toi, tu peux pas faire ça parce que tu montes pas sur des poteaux dans la vie. Fait que là, la ville doit venir avec un camion nacelle, puis la déplacer. Mais là, tu fais une plainte, mettons, au service au 3-1, quelque chose comme ça. Puis là, hop, on s'en occupe. On s'en occupe quand, comment, pourquoi, je le sais pas trop. C'est ça qui est difficile parce que là, t'es un citoyen, tu te dis, ben là, j'ai le droit d'avoir un suivi quand même sur mes histoires. Puis ça
en même temps, il y a une liste de priorités. Là. J'imagine que tu vas embarquer dans la liste des priorités à la priorité qu'on va te donner.
C'est là que je reviens à mon point de l'article. Si tu réussis à avoir un article dans le journal sur ton histoire, là, c'est sûr que tu passes sur le top de la priorité.
Parce que là, ça devient médiatique. Ouais. Les politiciens sentent la pression de réagir?
Oui, parce que le premier article, c'est correct. C'est tel que tel. Tu te lèves le matin, tu lis le journal, puis là, tu vois une plainte de, mettons, la lumière dans le salon pour dire de quoi. OK, c'est beau. Là, elle existe. Là, je le considère. Mais l'article de suivi, lui, fait mal. Parce que là, la ville n'a rien fait. Puis là, je ne suis pas entendu. Puis mon conseil municipal est inexistant.
Puis là, mon conseiller municipal m'écoute pas.
Mais ça peut-tu aller jusqu'à empêcher les commerces du Vieux-Québec de fermer leurs portes en hiver? Parce que, bon, Hydro-Québec veut pas chauffer le dehors. Puis le maire Marchand veut sauver le pôle Nord.
Ben écoute, je sais pas l'efficacité des murs rideaux, on va dire, de ventilation. Je sais pas comment on dit ça, là, mais tu peux faire un mur de vent. Dans
les zones tampons. Ouais.
Fait que ça peut fonctionner, mais je suis pas ingénieur là-dedans. Mais est-ce que ça va faire... Moi, dans le fond, je vais renverser la question, en fait. Si j'étais commerçant, je voyais ça dans le journal le matin, probablement j'aurais le même réflexe de toi, Marceau, de dire « Hey, je paye assez de taxes, j'ai de la misère à survivre, peux-tu me sacrer patience, j'essaie de faire des ventes. » Mais le point d'après, là, ça serait de dire « C'est culturel, ce qu'on fait. » Nous autres, les portes ouvertes, l'accueil dans le Vieux-Québec, c'est culturel. C'est ça, notre racine de commerçant dans le Vieux-Québec. Quand t'es un touriste, je vais te chercher parce qu'on va te vendre des souvenirs ou je sais pas quoi. Touchez pas à notre culture. Puis là, ça devient tough à devant.
T'as-tu une barrière psychologique? Puis je vous le demande aux gars, là, quand les portes des commerces sont fermées l'hiver sur Saint-Jean, ça vous empêche-tu de rentrer?
Honnêtement, j'y ai pensé un matin, puis je pense pas.
Parce que
ça m'est déjà empêché de rentrer.
Ça a de l'air que ce serait une barrière psychologique. Là. Si la porte est fermée, on a l'impression que le magasin est fermé.
Non, mais vite de même, mon premier réflexe a été, ben voyons, c'est bien niaiseux. Je sais que c'est ouvert, c'est dans les heures d'ouverture, m'a rentré. Puis après, je me suis dit, mettons là, puis parce que là, on parle d'un pub qui le fait.
La dernière fois, tu étais magasiné sur Saint-Jean. Ça
non, mais attends, c'est pour ça. Écoute-moi. Là, on parle d'un pub qui le fait. Oui. Ça se peut que si je passe à côté, je serais pas rentré. Ça... Mais que là, la petite porte ouverte,
la musique,
puis là, hop, une petite bière, ça
un
serait
plus.
Pas pire.
Okay.
Ça se peut pour vrai que ça fasse une différence, je pense.
OK.
Ouais.
T'es-tu sujet à ça, une petite bière de route en passant?
Je peux être une victime facile.
C'est ça. Tu me sembles une clientèle cible dans ton histoire.
David?
Oui?
Ça n'a pas rapport avec le sujet initial.
OK.
Mais il m'a montré une vidéo.
Non.
Oh. En fin de semaine,
okay.
Où il a été filmé à son insu.
Ouais.
Ça, c'est les meilleurs.
Il embrassait quelqu'un, une femme,
okay.
faut le mentionner. Il embrassait quelqu'un et par la suite, la tenait par la mâchoire et avec ses pouces lui faisait un massage de joue.
Juste d'une main. Non, mais c'est pas un massage de joue. J'étais un romantique, j'étais un affectueux. Puis
c'est sûr qu'un massage de pouces.
Non, mais c'est pas un massage de pouces. C'est que
je des chandelles.
Tu tiens le visage parce que vous êtes dans un moment.
Je suis désolé, sur la vidéo, tu lui masses la joue gauche.
C'est vrai.
La joue droite.
Ouais, ça joue avec. Ouais, c'était pas mes deux mains.
À 3h du matin. Moi qui est germophobe, c'est la première fois que j'ai remarqué.
Attends un peu, là.
3h du matin.
Ouais, mais là, c'est toi qui est germophobe.
Ouais, c'est
eux
ça.
Eux autres, les yeux pétillants un pour l'autre, on n'a pas pensé à ça, ouais. Même en face.
Elle doit trouver ça un peu différent ce matin, que la verrue, ça joue. Ça joue. Mais bref, t'as une barrière psychologique? Ça te fait une barrière psychologique?
Ben, c'est sûr que ça prend au minimum une affiche qui dit ouvert, là, qui flash en fluo, là. Mais sincèrement, en tout cas, je parle pour moi quand je suis dans le vieux, puis qu'il y a des magasins d'ouvert, puis t'entends la musique à l'intérieur, puis il y a de l'ambiance, puis tu sais, on va se le dire, c'est souvent des vitrines très chargées, là. Ça le dit clairement que c'est ouvert, puis ça appelle à rentrer dedans. Puis quand, mettons, sortons-nous du Québec, puis allons ailleurs en voyage, évidemment, c'est des commerces souvent, tu sais, là, on parlait des pubs, puis tout, là, c'est une autre histoire, mais vraiment, tu sais, je focus sur les magasins qui vendent des souvenirs, des choses comme ça. Quand tu vas à l'international, tu vas t'acheter des souvenirs, ben. C'est ce type de commerce-là que tu recherches. Puis là, la porte est ouverte, puis il y a de la musique, puis il y a de la climatisation quand il fait plus 48, puis tu as le goût de rentrer pour aller au moins te rafraîchir et ou avoir chaud dans l'occurrence ici, puis de voir ce qu'ils ont à vendre. Puis là, tu te ramasses un cossin en passant, puis tu repars avec. Mm. Fait que je suis pas en train de dire que si la porte se ferme, c'est la fin du vieux port, du vieux Québec, je veux dire. Mais en même temps, il y a quand même une habitude de consommation, dans le fond, pour les touristes que je trouve qu'on casserait avec ça.
All right. T'es un chroniqueur international avec nous d'habitude. Là, t'es dans le Pit Stop toute la semaine avec nous autres en remplacement de Denis. J'imagine que tu suis avec une grande attention quand même le conflit entre les Américains, entre Israël puis l'Iran.
Ben, pas le choix. C'est pas mal ça, le news of the town. En fait, de la planète au complet. Écoute, c'était écrit dans le ciel, les deux porte-avions qui se déplacent dans le secteur. Il y a 250 différents avions, dont des F-35, des F-22. Puis ça, c'est rare qu'ils sortent les F-22, par ailleurs, là, les Raptors qui sont furtifs. Fait que là, c'était écrit dans le ciel que ça allait se pogner. Là, on a attaqué directement au cœur de Téhéran, le régime, vous en parliez tantôt, le siège social des gardiens de la révolution. Donc là, on est vraiment en mode, là, on frappe ou est-ce que ça fait mal pour vrai. Puis sincèrement, quand ils ont annoncé que Khamenei était mort, j'ai douté de ça parce qu'il y a beaucoup de propagande dans ces situations-là. Puis là, parce que même encore ce matin, il y a des gens qui nous disent « Netanyahou est mort, s'est fait frapper sur son bureau ou son siège social. » Puis finalement, on verra bien si c'est vrai ou pas, mais je penserais pas. Fait que là, pour Khamenei, tu te dis la même chose. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Là, finalement, bon, il s'est fait passer au tordeur, incluant 48 autres hauts dirigeants. Mais là, on est vraiment en mode « on fait le ménage ».
Est-ce que ça nécessitait une intervention là et pourquoi? Il y a de ça quelques mois, on avait fait une intervention où on mentionnait qu'avec les frappes qu'on avait faites, on avait retardé là, l'avancement de l'arme nucléaire en Iran de plusieurs années. Puis là, ben quelques semaines se passent et finalement, boum, 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 on décide de sortir un deuxième dictateur.
Ouais, ben ça fait 40 ans qu'ils nous disent que l'Iran est à deux semaines d'avoir l'arme nucléaire. Là. Ça, c'est la toune tout le temps en Iran. Fait que là, ils ont récupéré le même sujet. Si tu vrai, si tu pas vrai, on le saurait pas.
Fait que c'est quoi la passe?
Cela dit, c'est que, tu sais, je vous parlais tantôt que tu as 4 ans pour faire ton leg. Là. Cette administration-là est en mode legacy. Là. Ils sont en mode, je veux laisser ma trace dans l'histoire. Maduro, on voulait reprendre le contrôle de l'Amérique du Sud, principalement, sortir les éléments, on va dire, là, je me sens guillemets, mais problématiques aux yeux de l'administration, aller chercher beaucoup de pétrole aussi, puis dans le fond, on a sécurisé une grosse masse de pétrole avant de rentrer en Iran. Je pense que c'est un choix conscient. On arrive en Iran, puis là, c'est Israël qui est vraiment tanné de l'Iran, parce que faut le rappeler tout le temps, là, le régime iranien, et non pas les citoyens iraniens, là, comprenons-nous, là, le régime est très déstabilisant, finance le terrorisme chiite à travers la région. On parle du Hezbollah, du Hamas, des Houthis. Puis à travers la planète, il y a des avions civils qui ont été tirés. Il y a plein de choses là, qui ont fait ce régime-là. En plus d'être vraiment sanguinaire envers leur propre population, là, votre invité juste avant le disait, puis elle a totalement raison. C'est vraiment absurde comment on a accepté longtemps finalement qu'un régime soit aussi sanguinaire que ça. On n'est pas là pour régler tous les problèmes de la planète. Sauf que là, en ce moment, de ce que je comprends, c'est qu'Israël a comme avec Gaza, là, puis là, ça a été un génocide assez incroyable. Puis là, mettons, c'est pas réglé encore, là, ça se bat plus, mais il y a bien du monde qui souffre. Mais cela dit, dans le fond, ils ont testé la machine. Ils ont dit, là, je vais régler un de mes problèmes. Là, Gaza, c'est un problème pour moi, Israël, fait que je fais le ménage. C'est ça qu'ils ont fait. Personne n'a réagi. Tout le monde a condamné avec des mots forts. Là. J'ai fait une déclaration pour dire que ça n'avait pas de bon sens, mais personne n'a rien fait de tangible.
Tout le monde a laissé Israël aller sur le terrain quand même.
Exact. Puis là, la deuxième plus grosse roche dans le soulier d'Israël, c'est l'Iran depuis très longtemps. Depuis la fondation 47 d'Israël, tout le Moyen-Orient, dans le fond, s'est ligué contre eux, puis ça a toujours été vrai. Là, la Syrie est plus affaiblie, la Libye aussi. L'Égypte est un peu moins dans le mix, mais il restait l'Iran. Puis là, ben, je pense que c'est beaucoup, beaucoup l'influence d'Israël en ce moment dans cette situation-là. Puis là, je suis pas dans les grands complots mondiaux sionistes, puis ça, c'est pas ça. C'est vraiment politiquement. C'est clair que c'est une pression israélienne pour dire « Sors-moi Khamenei, puis qu'on fasse le ménage là avec, puis on reparte sur des nouvelles bases. »
Pourquoi l'Iran n'a pas tant d'amis présentement dans le conflit?
Ben, en fait, mettons, ils ont deux amis dans la vie. Ils ont la Chine, puis ils ont la Russie. Ils en ont d'autres, là, mais tu sais, les vrais power players, c'est ça. La Russie, ils en ont pas pire plein leur bottine à gérer l'Ukraine, parce que c'est, on en dira bien ce qu'on voudra, ça va pas très bien pour eux autres. Puis la Chine, ben c'est pas un peuple qui est militairement agressif. Ça va peut-être le devenir, mais ça l'a jamais été. Fait que là, ils ont vendu des systèmes anti-aériens, puis des trucs de défense, mais se sont jamais vraiment impliqués directement dans des conflits comme ça, parce qu'ils comprennent très bien, les Chinois, que la plus grande influence que tu peux avoir dans la planète, c'est l'économie. Puis quand tu te pognes avec du monde, puis tu te débats, là, que tu t'attaques à coups de missile, les gens veulent pas faire du commerce avec toi. Fait que là, ben, ils se tiennent un peu en retrait, fournissent des armes, font des lettres. En tout cas, là, leur déclaration, eux autres, c'est de dire « Tout le monde a arrêté de tirer. » Fait que c'est simplement de dire « Je veux la paix. » Fait que, tu sais, ça engage à rien sur personne. Puis là, ben, Trump peut pas être fâché de ça parce que, OK, on appelle à la paix, tu sais. Fait que là, ces deux alliés-là, dans le fond, ils n'ont pas d'intérêt à rentrer en Iran en ce moment puis à jouer sur ce terrain-là. C'est il y a 10 ans qu'ils auraient dû faire ça pour vraiment stabiliser en temps de paix. Là, c'est toujours relatif, mais de mettre les deux pieds solides puis après ça, de gérer en s'en allant l'influence américaine. Ils l'ont pas fait. Ils ont un petit peu d'influence, mais pas tant que ça. Puis les tiennent en retrait. Puis la Russie, ils n'ont pas la capacité de le faire.
Khamenei avait de la misère à se traîner. C'était quoi son influence présentement par rapport à Khamenei il y a 20 ans?
En fait, c'est parce qu'il y a, on vous le disiez tantôt, là, ils ont consolidé le pouvoir dans un système extrêmement résilient. Fait que, tu sais, mettons, je vais ramener ça dans une entreprise, puis évidemment, c'est pas la même business. On se comprend que dans le privé, on essaie de moins tuer de personnes possible. Là. Mais, mettons, tu veux avoir un système.
Ben, tu voulais cibler une entreprise en particulier?
Non, j'en ai pas en tête, mais, tu sais, c'est un modèle d'affaires qui est difficile à défendre.
Oui, effectivement.
Mais, tout ça pour dire que, dans le fond, le PDG, c'était Khamenei. Puis, ouais. Dans le fond, le meilleur PDG que tu peux avoir, c'est quelqu'un qui dit, moi, dans le fond, je veux devenir le moins utile possible. Parce que l'organisation est extrêmement efficace sans moi. Puis c'est exactement ce qui a monté là-bas. Puis là, tu sais, déjà, c'était décidé d'avance que quand il allait se faire tuer ou il allait mourir, il allait avoir un conseil de trois personnes, trois têtes qui allaient être dirigées. Fait que le boss de la Cour suprême, le boss des gardiens de la Révolution, puis le président du pays. Puis c'est ce qui se passe effectivement en ce moment. Puis là, ben toutes les grandes structures sont encore en place pour être vraiment influentes puis contrôler la société encore. Fait que ça changera pas pour tout de suite. Là.
Donc, c'est pas possible que ce gouvernement de transition-là tente de négocier avec les États-Unis. On est encore vraiment très loin de pourparler.
Crée-moi que le téléphone doit aller en ce moment.
Oui.
Parce qu'ils peuvent pas maintenir ça à long terme. Puis là, il y a des articles des fois qui sortent en disant « Ah, là, la capacité des systèmes anti-missiles américains, israéliens, ça prend des missiles pour frapper des missiles qui rentrent, là, on se comprend. » Là,
tu parles du dôme de fer en Israël.
Exact. Puis on nous dit « Ah, l'approvisionnement est bas, puis ça ne durera pas longtemps. » C'est pas vrai, ça va durer infini, là, cette résistance-là. Puis l'Iran, elle, à tous les jours, ils se font frapper chez eux dans leurs usines de production puis dans leurs entrepôts, si tu veux. Okay.
On a frappé quelques endroits qui touchent au pétrole. De plus en plus, on craint une montée abrupte du prix du pétrole. Là, on a eu, en fin de semaine, c'était quoi, une augmentation de 13% de ce qu'on comprend. Actuellement, à Québec, je fais un rapport avec nous autres, là, le prix le plus bas, c'est 1,34$. Le prix le plus élevé, c'est 1,46$. Ça va augmenter probablement dans les prochaines heures. Ils vont se trouver une bonne raison, là, même si le pétrole qui est déjà rendu ici a été vendu à bon prix. Mmh. Ça va être assez particulier. Puis ce que j'ai compris, c'est que les autres pays vont tenter de compenser. Ce sera probablement pas suffisant, mais ce qui coûte cher, c'est assurer tout ça.
Ouais.
C'est l'incertitude. Donc, les assurances, tu comprends, qui vont dire, OK, ben ton bateau, il part de telle place à telle place. Normalement, je te charge un montant X. Là, ça va être un 30% supplémentaire pour que si jamais tu te fais frapper par les Américains, ben, je vais être capable de te rembourser. Ça a l'air que c'est ça qui rentre aussi en compte dans le calcul du pétrole.
Oui, puis la prévisibilité aussi de l'approvisionnement, parce que ça reste que c'est une région, pas juste l'Iran, mais toute cette région-là qui produit encore énormément de pétrole. Donc, on a besoin qu'ils puissent produire librement, sans interruption. Puis d'ailleurs, c'est un des volets de la stratégie iranienne en ce moment, c'est de frapper tout le monde autour pour déstabiliser tout le monde, ou en tout cas, mettre tout le monde sur les nerfs. pour que le prix du pétrole augmente. C'est une des stratégies conscientes de leur part. Puis je pense qu'ils veulent aussi que le conflit devienne beaucoup plus régional, parce que là, si tout le monde se forge puis tout le monde se pogne ensemble, eux autres, ils ont moins de chaleur sur eux autres. Mais à moyen terme, le prix du pétrole, c'est sûr que c'est beaucoup ça, là. C'est beaucoup la garantie d'approvisionnement. Mais ce qui est un peu une twist plate là-dedans, c'est que c'est souvent des contrats d'achat de 6 mois plus tard. T'sais. Donc là, aujourd'hui, on négocie des prix pour dans 6 mois. Puis dans 6 mois, tout a le temps de se régler. Mais là, ça va être déjà plus cher, ces contrats-là, à ce moment-ci. Fait que là, aujourd'hui, à la pompe, ça va augmenter, même si ça n'a absolument rien à voir, parce que dans le réservoir, ça a été payé il y a 6 mois.
Ils se sont trouvés une raison.
À 100%. Oui. Sauf que là, la run jusque dans 6 mois, elle va être chère pareil, parce que là, on ne baissera pas les prix, ou en tout cas très peu, parce que là, on se dit, tantôt, ça va coûter plus cher d'acheter du pétrole puis de l'essence. Donc maintenant, je me prépare pour que le prix soit à bonne place. Fait qu'on va payer longtemps pour cette histoire-là. Mais à long terme, je pense que c'est une bonne chose parce qu'encore une fois, l'Iran est très déstabilisant dans cette région-là, puis a de l'influence beaucoup. À toutes les fois que l'Iran sortait en disant « Si vous n'êtes pas fin avec moi, je ferme le détroit d'Hormuz », qui est l'espèce de choke point là, pour sortir de la mer d'Arabie puis la mer Rouge, si je ne me trompe pas. À toutes les fois qu'il disait ça, le prix du pétrole partait parce que ça a tellement d'impact, parce que comme 80%, pas, j'exagère, mais mettons 40% de la production mondiale de pétrole passe par là. Fait que là, à un moment donné, sacrez-nous patience, l'Iran a changé de régime puis arrêter de faire cette menace-là, puis à long terme, le prix du pétrole va être plus bas.
Des fois, je suis un conspi, là, mais ça me dérange pas. Mais quand j'ai vu l'avertissement du gouvernement canadien là, de sortir le plus rapidement possible, oui. Je me suis dit, demain matin, je m'achète des actions à la bourse pour le pétrole.
Pour le pétrole.
Ouais. Si moi, j'ai pensé à ça, ceux qui déclarent les guerres, y penses-tu? Puis les gens qui sont autour dans le comité, là,
ouais.
Y penses-tu? Puis ces gens-là, ils ont-tu une conjointe ou un conjoint avec qui ils pourraient partager cette information-là?
Mais t'as tellement raison parce que cette intervention-là en Iran, puis je pense que c'est vrai pour la très grande majorité des interventions, elle se prépare à l'avance. J'envoie un porte-avions, j'envoie ci, j'envoie ça. Fait que ceux qui sont vraiment les hauts placés de ces compagnies pétrolières-là, de ces actionnaires-là, ben, ils peuvent transiger justement pendant cette période tampon-là.
Oui, parce qu'au Canada, on est obligé, quand on est en position d'autorité, là, ça et tout le débat avec Fitzgibbon, de mettre ça dans une fiducie sans droit de regard. Ouais. Fait que là, Jeff, je te donne toutes mes actions, là, puis fais ce que tu veux avec, je peux pas te le dire, je peux c'est pas ça. T'en parler, j'allais à ma place. Aux États-Unis, c'est plus lousse un peu. Ils ont un devoir de déclarer leur possession, puis tu peux voir c'est quoi les moves boursiers qu'ils font, mais ils n'ont pas vraiment le devoir de mettre ça dans une fiducie sans droit de regard. Puis une personne qui est souvent ciblée par rapport à ça, c'est Nancy Pelosi, parce qu'elle, ça fait 128 ans qu'elle fait de la politique, puis elle est rendue archi-millionnaire, puis c'est pas juste à cause de son salaire de femme de congrès. Là,
non.
Puis ça, c'est comme un grand classique. Fait que là, actuellement, oui, effectivement, si on sait que dans une semaine, ça va frapper, la tentation de faire un délit d'initié est assez haute. Ça reste illégal, mais prouve-le que ta femme, ton cousin, ton beau-frère a placé en fonction de ce que toi, tu savais. Prouve-le.
C'est tough en crime.
Ils font pas d'enquête ben avec ça. Fait que oui, les politiciens aux États-Unis, là, sans parler de corruption puis de grands schémas, là, et souvent, quand t'es dans un comité de sécurité nationale, ça finit que ça va bien des histoires.
Il y a du lousse sur l'éthique.
Ah ouais, la poule slack un peu.
Non, c'est ça. Ouais.
David Jabot, c'est un plaisir. On reprend ça demain pour le Pit Stop. Une bonne première, je pense qu'on a fait un tour, mais un bon tour de coupe de char.
Je faisais juste me réchauffer, gars.
Ça va être bon, ça va être bon.
Ça fait bien y prendre goût.
Stop-là.
Ben allez, écoute. J'adore ça, moi, venir ici.
C'est un plaisir. Merci. 8:26, qu'est-ce qui se passe sur la route, Max?
Sur la route, est-ce que c'est encore aussi parfait que depuis tôt ce matin? Oui, Marceau, c'est très fluide.
Merci beaucoup, on vient.
Boulevard 102. 102.